Bonjour Denis Chessouf.
Et bonjour cher Rémi Brancato. Le climat va être à l'honneur. Remarquez, avec un titre pareil depuis un certain nombre d'années, C'est où de mon amour, c'était un peu logique qu'on en parle. Avec Suzanne Georges d'un côté, avec Yannick Jadot de l'autre. Et puis nous rejoindrons aussi Nicolas de la Cassinière. Donc voilà, un joli plateau pour vous parler du climat, peut-être un petit peu autrement.
Ça fait 25 ans, oui, j'ai pas vu de campagne. Une jolie petite cabane, avec une forêt autour et des sentiers à plus savoir quoi en foutre. J'en manque de chlorophylle. Je suis obligé d'aller au Castorama, rayon jardinage, pour voir un petit peu de verdure.
CO2, mon amour.
Moi, j'aime me lever tôt, avec la lumière, aller pisser, dehors, contre un arbre. Pisser contre un arbre.
Denis Chessou.
Et l'embrasser.
Et oui, embrasser la vie, tel Jean Rochefort. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour. Parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes le changement. Avec à la technique Sandrine Laurent et Stéphane Poitvin, et assisté de Claire Destacan. Je n'oublierai pas Albert Hauque du Maine-et-Loire. Xavier Pissoudia réalise l'émission. Une émission qui commence par une petite humeur, car il y a eu, vous le savez, les mille et une nuits, et au train où vont les choses, il n'est pas exclu que l'on ait bientôt les mille et une vaches. Avouez qu'il y avait longtemps que l'on ne vous avait pas parlé de ce feuilleton à succès qui tient en haleine une partie de la Picardie et bien au-delà. Voilà en effet que l'intrigue redémarre à la ferme des mille vaches. Alors vous savez bien, hein, c'est la seule usine productrice de méthane de France qui, accessoirement, produit aussi du lait juste pour en faire chuter les cours. Alors, vous vous souvenez, en juin dernier, nous en étions restés à une jolie infraction. Autorisés à héberger 500 bovins, les lieux en accueillaient 263 de plus. Alors, devant ce tour de cochon fomenté par l'exploitant, la préfète de la Somme, avant de tourner chèvre, était montée sur ses grands chevaux. Les sanctions étaient donc tombées. 7800 euros d'amende immédiate, plus 780 euros par jour, tant que l'usine à vaches ne respectait pas l'arrêté préfectoral initial. Bon, alors vous qui craignez les entraves qui guettent tout entrepreneur du BTP, tentez de jouer à la fermière telle Marie-Antoinette, soyez d'emblée rassurés. Suite à sa condamnation, Michel Ramery, le propriétaire de la ferme-usine, s'est bien gardé de verser le moindre centime et l'exploitation est toujours dans l'irrégularité la plus complète. Et si nul n'est, paraît-il, censé ignorer la loi, eh bien certains peuvent se permettre de l'enfreindre impunément. De plus, et là, on sent, entrepreneur plein d'humour, il vient de solliciter officiellement l'autorisation de passer de 500 à 880 vaches. Une enquête publique sera bientôt ouverte dans ce sens et si elle aboutissait favorablement, le tour de passe-passe serait magistral parce que la situation serait ainsi régularisée de façon rétroactive. Alors la Confédération paysanne et les opposants au projet d'extension ne manqueront pas de s'étrangler devant cette nouvelle vacherie et dans cette affaire, on peut évidemment faire confiance à M. Ramery pour jouer les prolongations. À la manière de Scheherazade et de 880 bestioles, on arrivera bien un jour ou l'autre à 1001. Allez, à une queue de vache près. Si vous êtes adepte de l'ébriété, des énergies fossiles, des rentes industrielles, de la paresse, du renoncement politique et si vous êtes climato-fataliste, alors peut-être que l'on va un tout petit peu vous décevoir. On sait bien que cette société, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Mais bon, avant que notre humanité s'évanouisse complètement dans la gestion comptable de nos sociétés, on a quand même deux, trois petites choses à faire. Suzanne Georges, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, ravi que vous soyez avec nous. Vous êtes la présidente d'honneur d'Attac. Vous êtes aussi une femme qui a écrit de nombreux ouvrages, dont un qui s'appelle Les Usurpateurs. Et puis Yannick Jadot, que vous connaissez, député européen, vient de sortir La Guerre de l'Ombre, les citoyens face aux États et aux lobbies, aux éditions donc du Passage clandestin. Peut-être un peu envie de débuter, Yannick Jadot, aussi avec vous, avec donc ce qui s'est passé à Bonn, autrement dit donc les pré-négociations avant cette fameuse COP21. Petit passage en passant, des personnes m'ont dit, mais ça veut dire quoi la COP? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas le mot climat là-dedans, donc c'est ça aussi, c'est compliqué. Hein,
c'est
compliqué d'expliquer. Au fond, c'est depuis que la communauté internationale, en 92, à Rio, s'est engagée à lutter contre le dérèglement climatique. Il y a une réunion tous les ans de toute, on appelle ça la conférence des parties. Au fond, chaque État est une partie à la négociation. Et donc, tous les ans, on se réunit. C'est la COP21 n'est malheureusement pas la COP du 21e siècle. Mmh. C'est la 21e conférence des parties. Donc, on voit qu'il est temps qu'il y ait un sursaut. Parce que pour l'instant, on a surtout sauvé le système de négociation et pas encore assez le climat.
Alors, ce qui se passe à Bonn, donc là, actuellement, ça vient donc de se terminer. Bon, on nous a dit qu'au lieu d'avoir 200 pages comme à Copenhague, on était arrivé à 55 pages, là où il en faudrait donc une vingtaine. C'est peut-être pas exactement qu'une histoire de pages.
Non, c'est pas une histoire de page, parce qu'au fond, ce qui arrive à la fin de cette semaine de Bonn, c'est qu'au fond, toutes les grandes options ne sont pas arbitrées. Toutes les options sont encore dans la négociation. Donc, c'est d'intégrer ou pas simplement le mot énergie. C'est d'aller vers 2 degrés maximum de réchauffement climatique ou d'intégrer aussi 1,5 degré, ce qui est toujours une demande des pays les plus vulnérables, parce qu'une partie des îles disparaissent avec déjà 1,5 degré de réchauffement. C'est toutes les options sont encore sur la table et ne sont pas arbitrées. Est-ce que les pays du Nord vont tenir leur promesse de donner aux pays du Sud 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 de manière annuelle pour les aider à s'adapter, pour les aider à avoir un modèle de développement qui émet moins de gaz à effet de serre, parce que ces pays-là sont les moins responsables, mais les premières victimes du dérèglement climatique. Et on sait que sur cette question financière, ce sera un sujet absolument clé du succès ou de l'échec de Paris, parce que les pays du Sud en ont marre qu'on leur promette monts et merveilles, et qu'à la fin, non seulement les montants ne sont pas là, mais qu'en plus on leur dit ça va être beaucoup de financement privé, et que ce sera de moins en moins des dons, mais de plus en plus des prêts. Donc au fond, sans véritable visibilité, ils ont un peu l'impression toujours d'être les dindons de la farce. Donc il va falloir que les pays du Nord soient beaucoup plus sérieux de ce point de vue-là aussi.
Et puis Susan George, on va juste rappeler que 80% des dégâts donc causés par ces gaz à effet de serre dans les pays du Sud proviennent de 80% des émissions du Nord. Donc c'est ça.
Bien sûr.
Et là, on est dans la justice climatique.
Il n'y a pas de justice climatique pour le moment. Et il y a un chercheur qui a fait une étude herculéenne qui montre que à travers des décennies, il date de 1850 jusqu'en 2010, et il montre qu'il y a 90 entités dans le monde, dont 50 privées, qui ont émis 63% de toutes les émissions historiques. Et ce sont des pétroliers, des compagnies de charbon, de ciment et de gaz. Et notre cher Total est 13e sur la liste.
C'est bien placé.
De ceux qui ont émis le plus historiquement. J'étais récemment aux États-Unis. Je disais aux étudiants là-bas, vous avez à peu près 20 ans. Les négociateurs négocient depuis que vous êtes nés. Et il y a 60% d'émissions de plus depuis le début de ces négociations. Donc, c'est un échec. Et comme j'étais partie 3 jours, et quand j'étais partie, il y avait 20 pages dans le document qu'on prépare à Bonn, et maintenant il y en a 80, j'ai pas eu le temps de me mettre complètement à jour, mais ça devient un document qui sera illisible, qui sera pas négociable, enfin qui sera très très difficile à négocier. Et nous allons, je crains, vers un autre échec des négociations. Il y a des raisons à cela, évidemment.
Alors, on ne sait pas s'il va y avoir un sursaut malgré tout. Frédéric Danhé, vous avez regardé cela, donc vous qui décryptez un tout petit peu les choses, peut-être très très rapidement, vous avez regardé effectivement ce texte, et on voit, comme on dit, beaucoup de petits crochets dans ce texte.
Oui, bonjour Denis, bonjour à tous. Oui, je voudrais rassurer Suzanne, le texte est déjà illisible. Il ne faut pas attendre 80 pages, on est à 51. 51 pages, et notamment, j'aime beaucoup l'article 6 qui concerne la finance, ce dont parlait tout à l'heure Yannick, donc pages 17 à 18, où tout est crochet, et entre les crochets, on met ce qui n'a toujours pas été négocié, parce qu'il y a, si vous voulez, on accumule les crochets les uns derrière les autres, et dans chaque crochet, il y a une option, et notamment sur qui finance quoi, sur les pays du Nord réclament effectivement que les pays du Sud se prennent en charge, et que et que d'une certaine façon, les plus riches des pays du Sud les aident en mettant la main au portefeuille. Sont visés évidemment la Chine et les pays de la péninsule arabique. Voilà, les pays du Nord disent, mais d'accord, tout ça c'est bien joué, nous sommes riches, mais parmi vous, parmi beaucoup d'entre vous, il y a des pays qui sont de plus en plus riches et qui pourraient vous aider aussi. Bref, rien n'avance, et quand on compte le nombre de crochets, il y en a plus de 1600 ou 1700, ben... on voit que ces 51 pages n'ont accouché de rien, et c'est un peu désespérant.
Alors, ce qui n'est pas désespérant, en revanche, que sinon on ne serait pas là non plus pour enterrer cette affaire-là, et puis ce n'est pas forcément le but du tout, c'est de voir donc la société civile quand même qui rebondit. Et là, on va avoir pas mal d'exemples donc à vous donner, sans du tout raser gratis, vous le savez, dans cette émission. Je vous propose d'abord une première chanson choisie par Thierry Dupin. Thomas Dutronc, on connaît ? Bon oui, bah, bien sûr, allons-y pour Archimède.
D'être Archimède pour comprendre notre alchimie. Toi et moi, c'était écrit, l'amour nous possède. Embrasse-moi, prends-moi la main. Ton sourire si plein d'étoiles me rend fou, me fait du bien. L'amour ça cavale. À t'offrir pour te séduire. Le bonheur ne s'achète pas, ne s'explique pas. Pas besoin d'être Crésus. T'es ma prime et mon bonus. Je te ferai pas tout un laïus. L'amour c'est bien plus. Soit ça passe, soit ça casse, mais c'est fatal. C'est l'amour en cavale. Les câlins, les billets doux, les froufrous. Mon petit lapin, tu m'en fous. Pas besoin d'être donjon. De te faire du boniment. Tel seul grain que je veux moudre. L'amour c'est le coup de foudre. Pas besoin de théorèmes pour comprendre que l'on s'aime. Pas besoin d'être Archimède. L'amour c'est bohème. C'est fini les compromis. L'amour, c'est la vie. Pas besoin d'être Artaban. Moi, je suis fier de ton minois. On est bien sur ce petit banc. L'amour c'est comme ça. Pas besoin d'être Saint-Ex pour survoler nos complexes. Je te dessine des moutons. L'amour c'est flonflon.
Tu ne prends rien.
J'ai pas encore assez faim.
Je te laisse manger. Ah la vache.
Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe.
CO2, mon amour.
Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On trouvait de la litue fraîche à gogo.
Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé.
Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre ?
On se croirait dans un four. On crève à force de transpirer.
Sur France Inter.
Tu sais que tu m'agaces.
Non, ne tournez pas le bouton tout de suite, non, vous êtes bien sur France Inter, c'est Haut de mon amour, donc un petit extrait de Soleil Vert qui était assez visionnaire, mais justement, on espère ne pas en arriver complètement là. Yannick Jadot, donc avec nous, député européen, Suzanne Georges, présidente d'honneur d'Attaque aussi également. La difficulté, en fait, aujourd'hui, principale, on va dire, Yannick Jadot, pour négocier tout cela avec des intérêts, nous le savons, qui sont complètement différents au nord, au sud, à l'est et à l'ouest.
C'est une difficulté majeure. C'est sûr que de mettre d'accord sur un même texte les pays de l'OPEP, les producteurs de pétrole, l'Arabie Saoudite et les îles Tuvalu, qui disparaissent à 1,5 degré de dérèglement climatique, c'est évidemment extrêmement compliqué. Et en même temps, bien sûr, il faut réformer le système des Nations Unies. Moi, j'ai toujours souhaité passer à la majorité qualifiée, pas à l'unanimité, au consensus. Mais en même temps, le système des Nations Unies aujourd'hui, c'est le seul où, au fond, Tuvalu peut s'exprimer comme les États-Unis, oui. Ou le Burkina Faso peut s'exprimer comme l'Union européenne, ou le Costa Rica s'exprime juste après la Chine. Et donc, ça reste aujourd'hui le seul système de démocratie internationale qui est ô combien difficile, lourd, avec plein de problèmes. Mais c'est le seul système aujourd'hui où, au fond, on essaye de construire à l'échelle des États un consensus sur quelque chose qui concerne tout le monde. Le climat nous rappelle à notre communauté de destin. On est tous concernés et donc il va falloir agir. Toute la question aujourd'hui, c'est évidemment l'interaction aujourd'hui entre les États, le fonctionnement des États, leurs intérêts et puis évidemment toute la société civile internationale qui se mobilise sur le sujet et toute la société économique qui aimerait tant aujourd'hui avoir tellement plus d'espace pour faire moins de CO2, faire plus de PME, plutôt que les géants de l'énergie dont parlait tout à l'heure Suzanne.
Alors Suzanne Georges, donc le pitch médiatique, on le sait, il est déjà écrit, c'est-à-dire que le sommet de Paris réussira là où Copenhague a donc échoué, donc on essaye d'arracher un accord global, mais alors en fait, puisque sur le papier, on va dire, tout le monde a les bons mots dans le bon ordre, il n'y a aucun problème, tout le monde a l'air d'accord, mais bon, alors collectivité, entreprises, scientifiques, et là surtout État, et pourtant ça ne bouge pas quand même complètement. Il y a plein d'avancées, on va arriver sur les avancées, mais pourquoi ça bloque ?
Ça bloque d'une part à cause des lobbies qui restent très puissants et qui ne veulent absolument pas que ça change, et je parle là des lobbies du pétrole, du charbon, du gaz, du ciment, et qui sont très actifs et qui sont subventionnés en plus et qui ne veulent perdre rien de tout ça. Ils sont toujours en tête pour les profits et pour les dividendes, donc leurs actionnaires ne veulent pas non plus très souvent que ça avance. L'autre raison, je crois, et Yannick le sait aussi bien que moi, il est économiste, ce n'est pas mon cas, c'est qu'il n'y a pas de prix sur le carbone. Et comme si j'investis pour diminuer mes émissions de carbone, je vais avoir à payer pour cela. Ça va me coûter cher comme pays. Mais je vais en bénéficier un peu. Mais surtout, je fais bénéficier tout le monde, tous les membres des Nations Unies. Et si eux ne contribuent pas, bon, je suis altruiste, c'est peut-être une satisfaction, là. Mais je n'ai aucun retour sur mon investissement.
Et donc, c'est ce que vous appelez le voyageur sans ticket.
C'est le voyageur sans ticket. C'est celui qui peut profiter des réductions des émissions d'autrui, mais qui ne fait rien lui-même. Alors, je parle surtout entre pays développés qui pourraient le faire et qui pourraient payer pour le faire. Et donc, l'idée qui circule un peu, mais pas assez à mon avis, c'est que ce qu'il faudrait faire, c'est un club des pays qui acceptent de payer. Ils acceptent tous ensemble. Et puis, il y a des sanctions pour une certaine catégorie de pays riches. S'ils ne veulent pas participer, on peut sanctionner par différents moyens. Moi, je prendrais comme moyen les tarifs sur leurs biens, sur les choses qu'ils veulent vendre. Mais je crois que, bon, ça ça serait vraiment très très difficile. Mais il y a des sanctions que l'on peut imaginer, mais le tout c'est de mettre un prix d'environ 40 dollars par tonne de CO2
oui,
émis.
C'est ce qu'on dit, oui, ça pourrait être entre 30 euros ou 40 dollars. Oui.
C'est la manière dont on est certain de stopper les choses. L'autre, c'est que la société civile pousse de plus en plus fort pour que les gouvernements agissent. Et je crois que peut-être cette fois-ci, ce sera le bon.
Que le calendrier climatique soit un peu tenu aussi par la société civile. Peut-être réaction d'abord, Yannick Jadot.
Il y a une réflexion au niveau européen, au niveau du Parlement européen, au niveau de la Commission européenne, au niveau du Conseil, justement, sur ce qu'on appelle une sorte de taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'Union européenne impose un certain nombre de contraintes à ses entreprises pour qu'elles évoluent dans le bon sens, il est totalement légitime de protéger ces entreprises d'une concurrence extérieure de pays qui ne feraient aucun effort. Donc c'est une sorte de taxe carbone ou qui permettrait d'ajuster et de sanctionner ceux qui ne font rien. Mais il y a ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est que lutter contre le dérèglement climatique, limiter le réchauffement à 2 degrés, ça veut dire garder 80% de nos réserves de pétrole, de gaz et de charbon dans le sol. Donc c'est demander à cette industrie des énergies fossiles, qui est l'industrie la plus puissante que l'humanité ait jamais connue, de faire une croix sur 27 000 milliards de dollars de revenus. 27 000 milliards de dollars de revenus. Et je donnerai un dernier chiffre, il ne faut jamais trop donner de chiffres parce que tout le monde se perd, mais cette industrie, et c'est le Fonds monétaire international qui le dit, c'est pas Suzanne George ou Yannick Jadot, c'est le Fonds monétaire international. Cette industrie, ces énergies fossiles, bénéficient chaque minute de 10 millions d'euros de subventions de la collectivité vers eux. Des subventions publiques pour les aider à mettre en place leurs infrastructures, de défiscalisation, de moindre prix sur les carburants, mais aussi tout ce que ça nous coûte en matière de santé et de dégradation de l'environnement. 5 300 milliards de dollars de soutien de la collectivité vers ces industries-là. Donc évidemment, quand vous avez une telle puissance économique et financière, vous avez une puissance politique considérable, parce qu'ils sont très liés au gouvernement, aux partis politiques depuis des décennies.
Vous avez intérêt à miser sur un échec à ce moment-là de la communauté.
Non, que vous avez une puissance culturelle, même dans nos imaginaires. Nous-mêmes, on est tous un peu prisonniers de cet imaginaire-là. Évidemment, vous faites tout pour que l'action climatique soit inexistante. Vous utilisez tous les leviers à Bercy, à Matignon, à l'Élysée en France, à la Commission européenne ou évidemment à Washington, au Congrès où ces lobbies financent les campagnes électorales aujourd'hui. Vous utilisez tous les moyens pour que, malgré les discours, malgré les campagnes de publicité, il ne se passe rien. Au fond, chaque avancée sur l'économie d'énergie, c'est toujours la même réaction de ces lobbies-là et parfois, trop souvent, de nos dirigeants, c'est « oui, c'est important, mais pas ici, pas comme ça, pas maintenant ». Vous savez, c'est leur slogan permanent « vous avez raison, mais pas ici, pas comme ça, pas maintenant ». Et c'est terrible.
On a connu ça avec le tabac. Le lobby du tabac a pu ralentir de très longues années toute politique anti-fumée. Et puis, finalement, ce sont les scientifiques et la société civile qui ont eu raison d'eux. Et ils n'ont jamais pardonné d'ailleurs. Et maintenant, ils cherchent évidemment des marchés en Chine ou dans d'autres pays émergents. Mais c'est, je crois, la seule chose qui puisse vaincre ces lobbies-là. Et en Europe, on n'arrive même pas à savoir combien ils dépensent, les lobbies du pétrole. Ils peuvent s'inscrire, mais ils peuvent dire n'importe quoi sur le registre et ce n'est pas obligatoire. Aux États-Unis, c'est au moins obligatoire et ça aide tout de même pour avoir des chiffres sur ce qui est dépensé en toutes sortes d'activités de lobbying, que ce soit vis-à-vis du public ou vis-à-vis des élus.
Juste là-dessus, si vous me permettez, aux États-Unis, vous avez quand même des responsables au Sénat, dans le Congrès américain, au Sénat ou à la Chambre des représentants, qui aujourd'hui disent le GIEC, et donc la communauté scientifique internationale sur le climat, que c'est le Troisième Reich, que vous avez des élus qui disent il peut pas y avoir une élévation du niveau de la mer parce que Dieu a promis à Noé qu'il n'y aurait plus le déluge. Enfin, on en est à ce niveau de discours. Et ces élus ont reçu d'immenses soutien de l'industrie pétrolière et des énergies fossiles en général, notamment du charbon, et même d'entreprises françaises. Areva et GDF Suez, qui sont dans lesquels l'État est très investi en termes de capital, ont financé des climato-sceptiques aux États-Unis qui racontent absolument n'importe quoi et qui combattent Obama sur toute initiative en faveur du climat. Donc c'est aussi comme ça que ça se passe.
Oui, c'est, maintenant, même ses contributions sont secrètes, parce qu'on a fait des fondations pour ça, pour que Exxon puisse continuer, qui est la première puissance pétrolière aux États-Unis, et peut continuer à mettre plein de fonds pour les climato-sceptiques dans ce fonds spécial, et personne ne saura que cet argent vient d'Exxon.
Nous, c'est un scandale. Bien, hein. En France, le climato-sceptique à côté, ça a l'air absolument ridicule. Nicolas Lacazinière, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous venez de sortir chez au Seuil et chez Reporters, car vous travaillez aussi chez nos amis de Reporters, un ouvrage pimpant qui s'appelle Les saboteurs du climat. Et alors là, tout à l'heure, Suzanne Georges parlait effectivement de la revue scientifique de Climate Change qui a sorti donc que 2/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre cumulées dans l'atmosphère depuis le début de la révolution industrielle sont causées par seulement 90 grandes firmes. Voilà, donc Total en 13e position aujourd'hui. Et donc vous êtes parti aussi de ce constat. Et alors qu'est-ce que vous avez voulu faire? En fait, vous avez mis en avant, en fait, à chaque fois, différents secteurs d'activité qui derrière, n'allaient pas évidemment dans le sens de la réduction des gaz à effet de serre.
Ouais, pour rebondir sur ce qui était évoqué tout de suite, c'est que je pense que une partie du patronat français, en tout cas dans son discours public, a dépassé le stade de contester toutes ces évolutions du climat et donc de rentrer dans un climato-sceptiste en disant tout ça c'est du catastrophisme et tout. Pas du tout. Ils sont tout à fait maintenant, ils veulent bien admettre que la responsabilité de l'homme est pleine et entière, oui, ça, et donc fait. La leur, mais ils veulent à tout prix être présents pour résoudre une partie de ces éléments. Donc dans leur discours, c'est nous sommes une partie de la solution, nous sommes une partie du problème, mais nous sommes aussi une partie de la solution. Et à partir de ce postulat, se développe un espèce de double langage et double pratique qui, d'un côté, va faire un peu de l'éco-blanchiment, on est les bons élèves, on fait plein d'efforts, vive la transition énergétique, on investit un peu dans le renouvelable, et par ailleurs de continuer dans le pétrole, le charbon ou le gaz à le racler jusqu'à la dernière goutte, au dernier mètre cube, pour ne pas fâcher les dividendes et les profits dont parlait Suzanne Georges.
Et alors donc vous avez aussi pas mal d'exemples, aussi bien celui de Michelin par exemple sur l'EVA qui a complètement changé aujourd'hui de stratégie et n'y va pas forcément bille en tête avec des forêts pouvant lui appartenir, mais quand même derrière soutien et en tout cas des financements dans des entreprises qui elles donc, vont fabriquer de l'EVA à partir donc de différents arbres. En ce qui concerne le pétrole aussi, il y a une entreprise tout à fait intéressante qui s'appelle Perenco.
Alors Perenco, c'est une entreprise assez peu connue en France qui a une spécialité, c'est de racheter des sites de production à des grandes majors, donc BP, Petrobras, le Brésilien, Chevron, Total, tout ça, qui considèrent que leur exploitation arrive à un seuil d'équilibre économique, c'est plus rentable pour eux. Ils les revendent à Perenco qui, lui, va faire le maximum d'exploitation finale, quoi, donc une sorte de nettoyeur terminal à moindre coût, et donc en se fichant pas mal des dégâts écologiques, des pollutions, de la sécurité, des émissions de gaz toxiques, etc. Ils sont déjà fait épingler notamment par le Sénat de la République démocratique du Congo, qui a lancé une commission d'enquête parce que il y avait des sols imprégnés de pétrole, des fuites partout, les ressources naturelles, la pêche qui étaient impactées. Et pour revenir sur ce que je disais sur le double langage, on a typiquement là le discours d'un tricheur qui est épinglé, alors je cite le Sénat congolais, qui demandait des sanctions contre Perenco pour avoir fourni des informations erronées, d'en avoir caché d'autres en vue d'induire délibérément la commission d'enquête sénatoriale en faussant l'expertise. Et j'allais dire qu'on trouve là une espèce d'analogie apporté par l'actualité, ouais, avec l'histoire de Volkswagen qui a des bons critères de responsabilité sociale et environnementale et qui triche délibérément, donc qui a un affichage d'un côté et puis qui de l'autre côté...
Il y a des jaloux justement sur ce thème de Volkswagen.
C'est terrible parce que, alors il y a le scandale Volkswagen qui effectivement c'est logiciel frauduleux. Donc là, on est vraiment dans la fraude, mais ou même dans l'escroquerie en bande organisée, puisqu'au fond... la complicité d'un certain nombre de responsables de Volkswagen de tricher, y compris de tricher face aux législateurs et face aux automobilistes. Mais au fond, on voit que tous les constructeurs automobiles aujourd'hui, malheureusement, trichent totalement par rapport aux chiffres qu'ils annoncent dans leur publicité vis-à-vis des automobilistes, des consommateurs. Par exemple, quand on dit telle voiture fait 120 grammes de CO2 au kilomètre, en moyenne, elle fait 40% de plus dans la réalité. Ça veut dire 40% de consommation en plus. Ça veut dire, pour un automobiliste moyen, 400 euros de plus par an par rapport à ce qu'on leur promet. Donc, c'est un coût extraordinaire pour l'environnement, parce que c'est beaucoup d'émissions de CO2 qui sont faites au-delà de ce que impose normalement la législation. Et puis, c'est un coût dramatique pour la santé. Rappelons, 350 000 morts prématurées en Europe liées aux particules fines. C'est un coût pour les automobilistes. Et malheureusement, tout ça, là aussi, se fait en collusion avec les États. C'est-à-dire que ce sont les États et les constructeurs automobiles qui organisent les systèmes de contrôle, qui organisent les systèmes d'homologation et qui finalement organisent l'arnaque des citoyens et des automobilistes. Et là encore, il va falloir sortir des conflits d'intérêts et être beaucoup plus sérieux vis-à-vis des citoyens.
Et alors, malheureusement, nous sommes en pleine contradiction avec la COP, parce que ce qu'organise la France est sponsorisé, et très souvent sponsorisé par ces très... grandes compagnies qui sont dans la catégorie que dit Yannick. Je n'accuse aucune personnellement de frauder, mais Renault, Engie maintenant, qui était autrefois
GDF Suez,
sont parmi les sponsors de la COP. Ils vont contribuer de l'argent ou en nature, mais je pense qu'on aurait pu trouver mieux.
Écoutez, ils vous disent qu'ils sont à la fois le problème, mais aussi donc la solution de demain. Alors c'est vrai qu'on en prend un petit peu plein la figure en matière d'écologie aujourd'hui, que le combat est évidemment rude, qu'on est dans un monde de rapports de force. Mais en même temps, vous allez comprendre aussi pourquoi il n'a jamais été aussi bon. C'est très paradoxal, ce sera juste après cette chanson, et là on a plein d'exemples tout à fait enthousiasmants.
I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over. Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you pounded, you're a selfish man. And
tu sais.
Je dois partir dans le Nord-Pas-de-Calais. Et Julie m'a dit que vous connaissiez bien la région près de Lille. Et c'est comment la vie là-bas, tous les jours? Je veux dire, c'est tranquille, non?
Dur. Je supportais plus le froid.
Il fait très froid.
Oh. CO2, mon amour.
En été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1. Mais l'hiver, ça descend. -10, -20, -20, -30. Tu dis, je reste couché, il te fout du -40, tu vois?
-40?
C'est le Nord.
Sur France Inter.
Voilà, réchauffement climatique d'un côté, donc montant vers le Nord, comme le font les végétaux, comme le font les animaux. Yannick Jadot, donc, avec nous, avec cet ouvrage qui s'appelle Climat, la guerre de l'ombre, parce que justement beaucoup de citoyens sont en train de travailler avec des illustrations de Léo Crièvrieux. C'est aux éditions donc, du Passager clandestin. Et alors, là, c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment une foule de choses qui existent. On va peut-être commencer par une coopérative. On va aller chez nous, on va aller en Bretagne, on va non loin de Redon, dans la vallée de la Vilaine. C'est le parc de Bégane, et là, c'est la première coopérative citoyenne éolienne.
C'est un exemple extraordinaire qui a été développé beaucoup en Allemagne, au Danemark. C'est la première, c'est le premier en France, où au fond, des centaines de citoyens se sont mis ensemble, ont déjà travaillé à comment consommer moins, et puis après, ils ont dit, on va se mettre d'accord sur un projet, on va définir notre choix de production, une technologie propre, l'éolien terrestre, et cette énergie-là, on va s'organiser pour se la partager. Et par rapport à tout ce qu'on disait d'assez horrible avant, on est là dans un nouveau modèle où, au fond, ce sont plus un oligopole de grands groupes, des géants, des mastodontes de l'énergie. Ce n'est plus l'opacité, ça n'est plus la rente, c'est la démocratie, c'est l'énergie à l'échelle des citoyens et des territoires, et c'est le partage plutôt que la rente. Et au fond, c'est par rapport à ce vieux modèle qu'on décrivait avec tous ces effets dramatiques, on a aujourd'hui un modèle nouveau, extraordinaire, qui est en train de naître. Il y a quand même 2500 coopératives des énergies renouvelables en Europe. Mmh. Vous avez, et donc en Allemagne, 50% de l'énergie renouvelable, on sait à quel point l'Allemagne a pris le leadership européen sur ces sujets-là avec le Danemark, 50% des énergies renouvelables sont possédées par les citoyens. Ce n'est pas les grands groupes, ce sont les citoyens. Et évidemment, ce nouveau modèle qui remet de la démocratie au niveau local, parce que les citoyens se reconnectent entre eux. Ils pensent à la fois à la question globale, le climat, les dégâts de l'énergie, mais en même temps, ils pensent à leur bien-être, leur confort. Donc, ils font du lien social, ils font de l'énergie propre, ils économisent par ailleurs l'énergie. Et au fond, c'est ça qui est fort dans ce modèle-là.
C'est ce qui est menaçant pour le business actuel.
Mais c'est une terrible menace pour le business actuel. C'est pour ça que les géants du pétrole sont aussi durs aujourd'hui contre tous ces nouveaux modèles. Parce que c'est la fin de leur pouvoir, ça. Et ce qui est vraiment passionnant dans ces modèles, qui encore une fois, enfin se développent en France grâce à Énergie Partagée, soutenue par Enercoop et ce type d'association, encore une fois, c'est que dans un moment où pas mal de nos territoires sont abandonnés du point de vue économique, abandonnés du point de vue des services publics, de la culture, de la démocratie, de l'emploi. Au fond, cette transition énergétique, elle amène des artisans, des ingénieurs, des ouvriers, des architectes du bâtiment sur tout ce qui est rénovation de l'habitat. Elle amène plein de PME et de coopératives des énergies renouvelables. Donc, ça amène de l'activité économique, ça amène de l'emploi. Et quand il y a tout ça, vous avez des services publics, vous avez de la culture, les citoyens, les gens ne sont plus des gens, ce sont des citoyennes et des citoyens, ce sont des actrices et des acteurs de leur environnement et de leur destin. Ils font ça sur l'énergie, ils font ça sur l'agriculture, vous savez, avec l'agriculture de proximité et l'alimentation de qualité autour des AMAP, c'est autour de la mobilité. Et ça, c'est extraordinaire de voir comment, en dehors, au fond, parfois des politiques des États, en dehors des institutions, des citoyens se prennent en main et ils sont en train, pas d'inventer, parce qu'ils le mettent déjà en place, le monde de demain, et qui est un monde qui nous promet un futur bienveillant dans un moment où on nous dit en permanence c'était mieux avant, et ben là il nous dit ça sera mieux demain.
Voilà, et donc là vous rejoignez complètement ce que disait Alain Maugard la semaine dernière, donc à ce même micro, en parlant des bâtiments énergie positive, parce qu'il allait absolument dans le même sens. Je sais que vous revenez de Marseille. À Marseille, vous avez donc une société qui s'appelle DualSun, et qui fait donc du photovoltaïque, et on voit très bien que le photovoltaïque là très rapidement va être quasiment à la parité, donc avec aussi l'énergie donc nucléaire. Et là, ils ont trouvé une invention tout à fait intéressante. Qu'est-ce qui donne envie,
en fait,
là aussi?
Ils mettent ensemble, sur les mêmes panneaux, du photovoltaïque, donc qui produit de l'électricité à partir du soleil,
oui,
et du solaire thermique qui produit de l'eau chaude, à partir justement de cette première transformation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à installer ça sur des logements sociaux à Marseille, sur des hôpitaux, et ils fournissent grâce au soleil. Et avec une production totalement française, ils produisent à la fois de l'eau chaude et de l'électricité. Et c'est ça, encore une fois, qui est extrêmement aujourd'hui porteur de sens. Et comme vous le disiez, aujourd'hui, tous les experts de l'énergie le disent, l'éolien terrestre et le photovoltaïque sont des énergies plus compétitives, moins chères que le pétrole, le gaz et évidemment le nucléaire. Pas encore moins cher que le charbon, mais là, ça renvoie effectivement au prix du carbone, c'est-à-dire que c'est une activité extrêmement polluante qui n'est pas sanctionnée du point de vue de ses dégâts à l'environnement et à la santé.
Suzanne Georges, qu'est-ce que vous voyez émerger? Parce que ça aussi, c'est, que ce soit donc du côté d'Attac, d'Alternatiba, où les citoyens ont envie de prendre quand même ce pouvoir. Là, on est sur un changement quand même extrêmement intéressant. Ça ne fait pas encore, comme on dit, sens, mais c'est là, quoi, c'est là. C'est en train de se soulever comme de la pâte.
Oui, je viens de voir aux États-Unis dans un collège, c'est-à-dire le niveau universitaire, un bâtiment qui est en construction, qui sera entièrement autonome avec recyclage de l'eau pour que ils sont même pas connectés au système d'égout, ils sont pas connectés même à l'arrivée d'eau de la ville, l'électricité, ce sera totalement autonome. Et ça, c'est formidable. Mais en France, je donne un autre exemple, peut-être pas aussi avancé que l'exemple de Yannick, mais dans une ville qui est Lille-Saint-Denis, qui est une ville pauvre, 70% de logements sociaux, c'est dire que c'est pas une commune riche.
Dirigée par Michel Bourguin.
Et oui, qui ont déjà pu, avec beaucoup de participation des associations dans cette ville, réduire leur consommation d'électricité de 28%. Il y a d'autres exemples comme ça. Il y a tout un réseau de villes en transition en Angleterre, en Irlande, où il y a place pour tout le monde. Comme le souligne Yannick, je crois que c'est très important parce que des personnes, et peut-être en particulier des femmes, ont tendance à dire « mais moi je ne sais rien faire, je ne peux pas participer à ça, j'ai pas fait de diplôme ». Mais si, tout le monde peut participer parce que tout le monde peut imaginer une autre façon de faire marcher la cantine de l'école.
Oui.
Il y a des quantités d'opportunités. Et ce qui est formidable, c'est qu'en France, pour la COP, il y a maintenant plus de 120 organisations qui viennent de tous les horizons, qui sont parfois même des opérations de secours, parce qu'ils savent très bien que le climat tape surtout, on a un impact surtout quand ça change sur les plus pauvres et les plus vulnérables. Ce sont toujours les premiers à souffrir. Et alors, eux sont à côté des organisations d'église ou des organisations de longue date comme les Amis de la Terre ou Greenpeace. Et il y a des femmes, il y a Attac, il y a toutes sortes d'organisations. Tous ensemble, sur les mêmes thèmes, 80% effectivement, comme Yannick l'a dit, des énergies fossiles doivent rester dans le sol, et qui vont faire non seulement une marche au début, le 29, n'est-ce pas, avant l'ouverture de la COP, c'est une marche, je dis entre parenthèses, qui va commencer à la République à midi pour que les auditeurs puissent s'y joindre, mais qui vont faire après, probablement le dernier jour, le 12 décembre, une autre marche, parce que l'erreur que nous avions faite à Copenhague, c'était de mettre toute notre foi dans les gouvernements et de dire, quand ça ça s'est écroulé, de dire mon Dieu, c'est fini.
Oui, vous avez été un peu vacciné, ça on voit bien.
Alors, maintenant, on va faire ce qu'on appelle le dernier mot, et il y aura des actions de désobéissance civile totalement non violente. Il y aura plein d'inventivité de ceux qui vont participer à cela, et nous allons dire, on continue, quoi que les États aient fait.
On va suivre cela. Yannick Jadot, d'ailleurs, aussi, puisque là, on est au mois de novembre. Le 26 novembre, au Bataclan, très intéressant, ça. Parce que là, vous êtes dit, bon, il y a des messages, on sait très bien que ça ne passe pas. On ne va pas dire aux gens, de toute façon, c'est la catastrophe. Vous savez, les gens se bloquent, ils ont raison. Enfin, on n'a pas envie d'entendre cela. En revanche, on aime bien les messages positifs. Et puis, on aime bien aussi mélanger alors, la philosophie, les arts divers et variés, ce que vous faites au Bataclan, le 26 novembre.
Une soirée culturelle autour du climat, justement, avec des danseurs comme Caroline Carlson, avec des artistes, des écrivains, avec des témoins, justement parce qu'il faut arriver à donner notre ressenti sur ce que signifie ce dérèglement climatique et ce que peut signifier la lutte contre le dérèglement climatique. C'est vrai que peut-être on y a contribué aussi en début d'émission. Tout le monde aujourd'hui dans la société dans laquelle on a une sorte de sentiment d'écrasement, une sorte de sentiment d'impuissance par rapport à la globalisation, par rapport à la finance ou par rapport au dérèglement climatique. Et au fond, tout le message aujourd'hui des écologistes, des associations, toutes les associations, c'est de dire on peut reprendre notre vie en main. On peut agir. Bien sûr, il faut que les États agissent. Les États ont des responsabilités énormes sur les questions énergétiques, de transport, agricole. Mais aujourd'hui, il y a une révolution citoyenne qui est en marche. Vous l'avez dit, Denis Chessou. Il y a une révolution économique. On l'a dit, les énergies renouvelables sont compétitives. Les programmes d'économie d'énergie aujourd'hui sont performants. Donc, au fond, il faut arriver à pousser les États à rattraper cette société qui avance plutôt que de laisser ces États paralysés par l'imaginaire fossile ou fossilisé de nos dirigeants et de nos responsables politiques.
01 56 40 40 35, c'est le répondeur. Vous avez un formidable festival qui s'appelle Alimentaire, donc l'alimentation avec Terre, T-E-2-R-E. En voici un petit concentré.
Fin 2015, la France accueille le 21e conférence internationale sur le climat. Pour contribuer aux réflexions sur les enjeux agricoles et alimentaires face au changement climatique, vous pouvez venir débattre autour d'un film documentaire sélectionné par le Festival de films Alimentaire. Pour cela, 8 films ont été sélectionnés pour alimenter le débat. Du 15 octobre au 30 novembre 2015, en France et à l'étranger, des centaines d'acteurs se mobilisent donc dans votre localité pour vous proposer des projections suivies de débats. Pour trouver une projection près de chez vous, vous pouvez visiter le site du Festival Alimentaire, festival-alimentaire.org, A-L-I-M-E-N-T-E-2-R-E.
Et pour rester dans le même registre, Regard sur nos assiettes, ça c'est un film assez formidable avec le réalisateur Pierre Bécu, donc c'est un film qui tourne à peu près dans toute la France, et le jeudi 5 novembre à 20h au cinéma de la Bastille, eh bien, on se retrouvera avec Pierre Bécu et Xavier Denamur pour parler justement de l'alimentation, parce que ça représente quand même aussi, mis bout à bout, pas loin de 25% de nos gaz à effet de serre, et montrer qu'il y a encore d'autres possibles. Donc c'est le 5 novembre au cinéma La Bastille. Me semble que c'est du côté de Paris. Et alors, puisque l'on parlait tout à l'heure, Suzanne parlait des villes et des cantines. Bah aujourd'hui, il faut le dire, vous avez une commune comme Moinsartou, et là ça a été évidemment des élus, et un élu, Andreas Kéry en particulier à l'époque, et on est à 150 000 repas par an qui sont entièrement bio. Alors ce qu'ils ont fait aussi de très intéressant, et vous le rappelez aussi dans votre ouvrage Climat, la guerre de l'ombre, Yannick Jadot, c'est qu'ils n'ont pas simplement acheté du bio, ils avaient 12 hectares de terre qui étaient constructibles, ils ont installé des agriculteurs bio derrière, et aujourd'hui ça fonctionne et ça ne coûte pas plus cher, loin de là, et tout le monde est content. Ça.
Et tout le monde est content, et il y a moins de problèmes de santé pour les enfants. Les enquêtes montrent que ce sont les familles qui changent aussi de comportement alimentaire, qui sont plus soucieux de ce qu'il y a sur les étiquettes, qui sont plus soucieuses de ce qu'elles mangent. J'ai été il n'y a pas très longtemps à Dunkerque et j'ai vu à Grande-Synthe, qui est aussi une mairie gérée par un maire écologiste aujourd'hui.
Damien Carême.
Exactement, qui a, comme le disait tout à l'heure Suzanne, 64% je crois de logements sociaux. C'est le spot industriel de Dunkerque.
Et un bout de biodiversité à moins de 200 mètres de chaque habitation.
Et il fait des trucs extraordinaires, ouais. Ça montre, et il est réélu. Comme Andreas Kéry, ils sont réélus et généralement, ils sont à chaque élection, ils augmentent leur taux à la fois de participation aux élections et leur score. Ce qui montre que quand on s'intéresse, quand on transforme la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens en mieux, quand on les réconcilie avec le futur, avec leur famille, avec leur envie d'émancipation, eh ben, y compris ça paye politiquement. Grand message, s'il en est besoin, à nos dirigeants politiques aujourd'hui.
Je suis obligé de repasser sur un sujet qui fâche, qui est le fameux TAFTA. Donc ça, c'est intéressant. Vous me le faites assez rapidement. Quitte d'ailleurs à ce que l'on reprenne du temps tous les deux. Il n'y a pas de souci là-dessus.
D'accord.
Mais pourquoi ça vous paraît une hérésie absolument folle? Et en plus, c'est quelque chose qui va rajouter des gaz à effet de serre, le fameux TAFTA.
Tout à fait. Qui va donner toutes les permissions possibles et imaginables aux grandes transnationales d'avoir leur donné le pouvoir juridique d'empêcher les États d'améliorer l'environnement ou même les salaires minimums. Il y a déjà beaucoup de procès sous d'autres traités qui ont déjà obtenu des compensations de plus d'un milliard de dollars. Par exemple, l'Équateur a été obligé de payer 1,8 milliard de dollars à une compagnie pétrolière américaine, Occidental, parce que Occidental a voulu forer dans une zone de l'Équateur qui était protégée. Mmh. Le gouvernement a dit non. Ils ont dit vous avez déçu mes attentes légitimes, ça c'est les termes du traité, et ils ont gagné devant un tribunal privé. Ce sont ces mêmes tribunaux privés d'arbitres qui pourraient donner la permission et qui donneraient la permission aux entreprises de porter plainte contre un État qui essaie de changer pour le mieux et qui, ce serait tout de suite les pétroliers, les investisseurs pétroliers ou charbonniers ou autres qui peuvent porter plainte et qui l'ont déjà fait dans de très nombreux cas.
Alors ça,
il y a juste une autre chose que je voudrais dire avant qu'on ne se quitte, parce que les auditeurs ont peut-être envie aussi de participer, et j'espère qu'ils en ont envie. Le site pour la grande coalition pour le COP, c'est le suivant, c'est coalition climat 21 en un seul mot, point...
Org, non, pas du
point,
tout.
Pardon, je l'avais ici.
Coalition.
.fr.
Oui.
Et puis, on peut ajouter à ce site /fr parce qu'on a aussi en anglais et en d'autres langues.
On va essayer de le remettre très vite après l'émission sur
non,
le site.
Non, c'est .org, pardonnez-moi.
Voilà, c'est ça.
Coalitionclimat21.org.
Et on peut rajouter FR. D'accord. On va essayer de le rajouter d'ailleurs très vite après l'émission, parce que celui-là, on l'avait pas mis. Un autre ouvrage, Crise climatique, Stop, l'appel de la société civile auquel vous avez participé. Donc ça, c'est dans la collection Anthropocène du Seuil. D'autres exemples très positifs, il y a la ville de Copenhague. Hein. Bah oui, d'accord. Peut-être que ça a été un échec retentissant, mais n'empêche que 1 200 000 personnes avec l'agglomération, 40% de déplacements quotidiens aujourd'hui avec du vélo, Yannick Jadot.
Et l'idée, c'est pas d'essayer de mettre le vélo à côté de la voiture sont touchés justement à la primauté de la voiture en ville, c'est de remplacer la voiture par le vélo. Et tout est organisé comme ça. Et les citoyens adhèrent, c'est ça qui est fou. C'est qu'au fond, la municipalité a décidé de faire de Copenhague la ville la plus agréable à vivre du monde. Et donc, ils organisent la présence de la nature, ils organisent la présence des transports autour de la convivialité et autour du bien-vivre. Et c'est ça qu'on aurait envie d'entendre, encore une fois, toujours plus. C'est qu'au fond, il y a un avenir prometteur, il y a un avenir où les gens s'emparent de la ville, s'emparent de leur transport, s'emparent de l'énergie, s'emparent de l'alimentation. Et en plus, encore une fois, on l'a dit, on a très peu parlé des pays du Sud, on a parlé un peu au début, mais tout ça, c'est se réconcilier avec le reste de l'humanité, parce que c'est moins de surexploitation de leurs ressources au Sud, et c'est nous réconcilier avec notre futur, ce qui est quand même pas le moindre de nos défis.
Quand on vous dit qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes nous-mêmes le changement, il faut vraiment arriver à s'en persuader, relire aussi d'ailleurs La Boétie, qui quand même à 17 ans nous parlait de servitude, à 19 ans nous parlait de servitude volontaire, donc voilà. Merci Suzanne Georges, merci beaucoup Yannick Jadot, donc cet ouvrage Climat, la guerre de l'ombre, aux éditions du Passager clandestin, Crime climatique, Stop, Les imposteurs aussi avec vous Suzanne Georges. Semaine prochaine, un magazine, là encore très très ouvert. Merci à Claire Destacan, à Xavier Pestugia qui a réalisé l'émission, Albert Hook, Anne Gouzon qui nourrit les sites. Je vous souhaite un excellent week-end et là tu lus mon petit loup. Oui, pour qu'ils aient une terre vivable, et ben ce sera demain à 19h54.